bienvenue sur les ondes de Pastis FM 99.4, 20h30, l'émission La Prophétie. Je vous propose, après juste une petite information ou deux, de s'écouter donc, une petite conférence qui avait été faite par Sheikh Hassan. C'est une question donc intitulée Les défauts de l'âme, la fainéantise. Sheikh Ahmed s'excuse de son absence et donc on va bien entendu pour cette émission s'écouter donc la conférence intitulée Les défauts de l'âme, deux points, la fainéantise, donc quelques conseils sur l'éducation du nefs, hein, contre ce fléau qui nous touche beaucoup, qui est malheureusement le problème de la fainéantise. Juste une petite information juste par rapport à différents articles qu'on a pu voir dans la presse. Je reviens un petit peu sur les événements qu'il y a eu, les événements des banlieues. On a dit beaucoup de choses à ce sujet, ça a éveillé beaucoup de fantasmes et de peurs. Ça a éveillé aussi pas mal de discussions et on a mis sur la table un petit peu les problèmes que peuvent rencontrer les jeunes et notamment les jeunes qui sont parqués, qui sont ghettoisés dans ces quartiers. Donc gros problème sur le plan social, sur le plan économique. Et justement, on a voulu, pour esquiver un petit peu la discussion et le débat, notamment des pouvoirs publics et des politiques, mettre sur la responsabilité de ces émeutes et enlever la responsabilité de ces jeunes à revendiquer des droits. On a voulu mettre justement ces émeutes, si je puis dire, sous l'œil de certaines organisations derrière qui auraient suscité ces émeutes. On va pas se cacher la face, hein. On a vu derrière des grands frères qui venaient bousculer les jeunes et les pousser à caillasser la police ou les pompiers. On a vu derrière des barbus en Dieu là-bas qui venaient un petit peu insuffler la révolte. Bref, on a dit tout, beaucoup de choses et beaucoup de mensonges. Et là, il y a un article qui m'a interpellé dans le journal du Monde, je pense d'hier, le 8, donc je crois que c'est hier. Qui précisait que d'après un rapport des renseignements généraux, donc tout le monde connaît les RG, les renseignements généraux qui infiltrent les différents milieux pour aller chercher l'information là où elle se trouve, et d'après donc ces renseignements généraux, le soulèvement venait essentiellement des jeunes, puisqu'ils en avaient marre de leur situation, et c'était une révolte à leurs moyens et à leurs méthodes, de manifester leur mécontentement quant à leur situation socio-économique qui est relativement désastreuse. Et bien entendu, ils n'ont absolument pas mis en évidence qu'il y avait ne serait-ce un groupuscule ou bien une organisation X ou Y qui était derrière à soulever justement et à motiver ces jeunes à manifester leur mécontentement. Donc, renseignement généraux qu'on rappelle, hein, qui est un service du ministère de l'Intérieur, présidé, dirigé par le ministre bien connu Sarkozy, qui lui prétend le contraire, donc c'est un petit peu surprenant de voir que le ministre veut absolument donner un son de cloche et que c'est sa propre administration, en l'occurrence les renseignements généraux, disent exactement le contraire. Donc voilà, c'est un article qui m'avait interpellé et je voulais vous en faire part. Par ailleurs, toujours en consultant un petit peu la presse, là sur Ouma.com, hein, le site bien connu Ouma.com, un petit article rédigé par Tariq Ramadan, qui bien connu aussi, qui est encore interdit de parole sur le territoire français. Bon, on connaît un petit peu les déboires qu'il a dû malheureusement subir et on connaît l'issue heureuse de la situation de Tariq Ramadan, puisque actuellement universitaire et enseignant à l'université d'Oxford, donc à Londres en Angleterre, souvent censuré ici en France et dans le reste de l'Europe, hein, je parle de la France, je parle de la Suisse, aux États-Unis interdit de séjour, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais on aurait cru que le fait que qui puisse s'installer en Angleterre et que de là-bas faire son travail comme il le faut, hein, c'est un intellectuel au sens le plus noble du terme, en France, pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, il reste encore l'objet de censure flagrante, puisque par exemple il devait intervenir dans un colloque à Clermont-Ferrand ce vendredi 9 décembre, donc c'est bien aujourd'hui, Et on lui a informé qu'il n'était pas la bienvenue et que justement en raison de la présence de Tariq Ramadan parmi les intervenants, la salle qui avait été mise à disposition des organisateurs avait été tout simplement retirée. Et donc le colloque ne peut pas se faire tout simplement parce que à l'affiche venait se greffer un nom malvenu. Donc il semblerait, d'après l'article rédigé par Tariq Ramadan, que la politique de M. Nicolas Sarkozy soit derrière, sans qu'on ait essentiellement des preuves, mais c'est des bruits de couloir, des organisateurs qui précisent qu'ils ont souvent des moyens de... ils subissent souvent des pressions de politiques locaux, et que ces mêmes politiques préciseraient qu'ils aient des informations et des pressions qui viennent de plus haut, en l'occurrence du ministère de l'Intérieur. Bon. Toujours est-il qu'il y a un état des faits. Maintenant, les causes, on ne les maîtrise pas, mais en tout cas, un état des faits, c'est que, à l'heure où M. Nicolas Sarkozy salue la pensée de l'intellectuel Alain Finkielkraut, dont les excès ont choqué plus d'un en France, sur ce qu'il a pu dire, hein, sur les événements des banlieues, si je puis dire, on peut se demander à quel type d'intellectuel on a envie d'avoir affaire au ministère de l'Intérieur et en France d'une manière générale. On est à côté de Tariq Ramadan, bien entendu, et de tous les intellectuels qui veulent s'exprimer en toute liberté, hein, sur les sujets qu'ils veulent, et que lui-même précise qu'il continuera à se battre avec les armes du droit pour faire reconnaître un droit minimum à l'expression que des politiciens feraient oublier à certains représentants du peuple, et plus gravement à certains qui auraient dû se présenter en gardien de la parole libre et protégée dans l'espace académique, pour reprendre les expressions de Tariq Ramadan. Donc voilà pour cette malheureuse anecdote sur la censure encore et encore de l'intellectuel Tariq Ramadan sur le sol français. Voilà les deux petits articles que j'avais voulu donc vous faire part. Sans plus attendre, 20h37, on va s'écouter donc une petite conférence intitulée « Les défauts de l'âme », la fainéantise » par professeur Chirouna Hassani Kusen. A tout à l'heure, Shabbat. Assalamu alaikum.
Alter FM, toutes les couleurs de la musique.
La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontres et Dialogues.
Where the call is to Allah. Pastel FM présente tous les dimanches entre 22h et minuit une émission religieuse qui s'intitule Bismillah.
Pour qu'il a voyagé, il se déplaçait. غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Bienvenue à nouveau dans le centre de l'Union des organisations islamiques de France pour ces cours. Donc, ils ont lieu tous les 15 jours. On n'a pas pu se voir la dernière fois parce qu'il y avait l'Assemblée Générale de l'UNIF. On se voit aujourd'hui, alhamdoulilah, malgré le froid glacial, sibérien. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup de force et de patience. Allah yahfidhkoum wa yuthabbitkoum, les amis, afin que vous continuiez sur ce chemin. Qui est le chemin du paradis, le chemin de la quête du savoir. Patientez l'imam Zamakhshari, radiallahu anhu, très grand savant, spécialiste de la langue arabe, et aussi exégète, mufassir. Il a fait un tafsir du Coran extraordinaire. Certains lui reprochent son i'tizal, Certains nous reprochent d'avoir été Mu'tazili. Pour la petite histoire, Al-Mu'tazila, c'était des savants musulmans qui avaient des opinions différentes sur certaines questions de l'aqida, de dogme, de la majorité des savants qu'on nomme Al-Sunnah wal-Jama'a. Ils avaient des positions philosophiques, dogmatiques sur les questions du destin, questions du Coran lui-même, hein, sa nature, etc. Ils avaient des opinions différentes, des avis, des ijtihads, des efforts. Ils se sont sans doute trompés sur pas mal de choses, mais ils ont dit aussi de très bonnes choses sur beaucoup de choses. On n'est pas là pour juger les gens. On prend des savants et de tous les êtres humains ce qu'ils ont de meilleur et le reste, que Dieu pardonne, ils sont quand même récompensés puisqu'ils ont fait un effort. Même s'ils n'ont pas trouvé la vérité, Dieu les récompense pour avoir fait cet effort. Donc l'imam Zamakhshari, radiallahu anhu, comme l'a coutumé à l'époque, les gens se déplaçaient en quête de savoir. Ils étudiaient là où ils habitaient et après avoir assimilé le savoir local, ils se déplaçaient, ils allaient dans les grandes universités, les grandes villes. Et ils faisaient des voyages qui duraient des années. Ça durait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'après mes mémoires, l'imam Ibn Mandar, radiallahu anhu, lui, a mis 50 ans pour rentrer chez lui. Là, il a fait un détour de 50 années pour acquérir le savoir. Et après 50 ans, il est revenu à son point de départ. Il s'est marié, il a fait des enfants, il a vécu le temps que Dieu a bien voulu qu'il vive. Mais ça prouve qu'il n'hésitait pas à faire de longs voyages et il patientait beaucoup. L'imam Zamakhshari, donc il a voyagé, puis il est allé dans les provinces de l'ex-Union soviétique. C'était l'Empire musulman, hein, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, etc. Donc l'hiver là-bas, c'est la Sibérie, hein, c'est moins 10, moins 20, moins 30. Et il a été amputé de son pied. Il a perdu son pied à cause du froid. Et lorsqu'il se déplaçait de mosquée en mosquée, il apprenait, il enseignait, et il n'hésitait pas en public à dire aux gens, il sortait un bout de papier sur lequel il y avait le nom de témoins qui ont assisté à cette amputation qui était due au froid. À cause de quoi? De son voyage. Donc il disait aux gens, en public, dans les mosquées, « Mon handicap n'est pas dû à une sentence qu'on a appliquée sur moi, c'est parce que j'ai commis le désordre, c'est parce que j'ai coupé le pied à quelqu'un, on m'a coupé le pied, je ne suis pas un délinquant, mais voilà pourquoi j'ai perdu mon pied. Je l'ai perdu, à cause de quoi? À cause de mes voyages scientifiques, pour justement éviter, vous savez, que les gens pensent du mal de lui. » Donc, nos ancêtres pieux ont supporté le froid, ils ont même perdu des membres de leur corps. Pourquoi? Pour acquérir le savoir. Et vous leur ressemblez. Ma main coupée, s'il faisait moins 30, la plupart, peut-être vous tous, vous aurez quand même fait le voyage qui va d'un kilomètre à 20-30 kilomètres, je ne sais pas où vous voulez. Pourquoi? Pour apprendre, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié cette communauté d'une pluie. Hein, il a dit, la communauté musulmane, c'est comme la pluie. On ne sait pas si ce sont les premières pluies qui seront les plus bénéfiques ou les dernières pluies. C'est-à-dire, il y a du bien dans cette communauté, on est sûr qu'il y a eu beaucoup de bien dans les premiers temps de l'islam, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autant de bien vers la fin, hein, de la vie de la communauté musulmane. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Il y aura toujours du bien dans cette communauté. Vous êtes la preuve du bien de cette communauté. Que Dieu vous préserve et vous donne le courage et la force de continuer. Alors, sans transition, le thème de ce soir, Inch'Allah, c'est à nouveau un défaut, une maladie du cœur, une tare qui existe chez les êtres humains, qu'il faut absolument soigner,
faut s'en débarrasser, c'est El Casalo. El Casalo. Casalo, c'est la fainéantise. Le contraire du courage. Alors, je suis désolé de vous parler ce soir du Casalo parce que ça ne vous concerne pas. Vous êtes courageux, vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais au cas où un jour vous serez atteint de cette maladie, vous avez déjà plus ou moins les anticorps intellectuels. Pourquoi ? Pour la combattre et la rejeter, puis transmettre. Hein, c'est toujours bien de nous rappeler des vérités et les transmettre aux autres. Qu'est-ce que c'est que le casal ? C'est un défaut. L'être humain, par nature, aime être servi, n'aime pas servir. Il aime qu'on travaille à sa place. Il aime récolter les fruits de ce que les autres ont semé. Il aime se reposer sur ses acquis. Il est fainéant. Et si on ne combat pas cette nature humaine, nous devenons des consommateurs qui avons tendance à profiter de la générosité, de la bonté des individus et de la société, si bien que ça se transmet au niveau religieux et on n'a plus le courage et la force de pratiquer la religion. Et Dieu condamne les fainéants, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine purement matériel. Et il y a aussi une fainéantise au niveau intellectuel. Et c'est sans doute la plus dangereuse. C'est elle qui, justement, pousse l'individu à être fainéant au niveau matériel, au niveau de la pratique religieuse. Ainsi, Dieu, lorsqu'il parle des hypocrites dans le Coran, il les décrit comme étant des menteurs, des gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent, et il les traite aussi de fainéants, de paresseux. Ainsi, Dieu dit dans la sourate Al-Nisa, les femmes, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Les hypocrites tentent de tromper Dieu. Et c'est Dieu qui les trompe. Ils trichent avec Dieu, mais ils sont perdants. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Et lorsqu'ils se mettent debout pour faire la prière, se mettent debout à contre-cœur, malgré eux, et ils y vont avec paresse à la prière. Ils ne sont pas pressés de prier, ils essaient de prier le plus tard possible, et l'expression corporelle de ces hypocrites est le reflet de la paresse et de la fainéantise. Ils font le minimum, et ils vont très vite pour prier. Parce que c'est un lourd fardeau qu'ils portent sur les épaules et ils veulent à tout prix s'en débarrasser, coûte que coûte. Ainsi le prophète A.S. parle de la prière de l'hypocrite. Il dit, il attend la dernière minute, le soleil va presque se coucher et il prie l'asr comme un coq picore. Et les poules, les coqs, picorent très vite, ils sont pressés, faut manger le maximum pour ne pas laisser aux voisins. C'est la règle dans le monde animal. L'hypocrite va très vite, se prosterne tout à l'heure, il s'incline à tout à l'heure. Une prière qui lui a duré 4-5 minutes, elle dure 4-5 secondes chez l'hypocrite. Pourquoi ? Parce que il déteste la prière et il est paresseux par nature. Il l'a fait, il ne prie que pour que les gens ils considèrent comme des prieurs et ils n'évoquent Dieu que très peu, très peu. Ils sont paresseux. Moins ils évoquent Dieu, mieux ils se sentent. Ils lisent très peu le Coran, voire pas du tout. Leur prière, elle est réduite au strict minimum pour éviter justement de réciter au contraire d'évoquer Dieu. On verra qu'une fois tous les 6 mois, moins ils en font, mieux ils se sentent. Bref, c'est la paresse par excellence au niveau de la pratique religieuse. On a parlé de l'hypocrisie, quelque temps, voilà de nouveau une des caractéristiques de l'hypocrite. Le croyant prie avec courage, avec force, avec envie, avec sacrifice. Vous comprenez, il va à la prière avec le sourire. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ne courez pas quand vous allez faire la prière, non pas parce qu'il ne faut pas se presser pour prier, mais uniquement pour ne pas être essoufflé quand on entre dans la prière, car l'essoufflement est en contradiction avec la concentration. Mais le croyant prend son temps pour se préparer à la prière parce que il sait qu'il doit l'accomplir. Dieu dit à nouveau les hypocrites: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون. À nouveau, ils ne vont vers la prière que de manière désintéressée, ils sont paresseux, et ils ne donnent, lorsqu'ils donnent de l'argent, lorsqu'ils font largesse de leurs biens, que pour se donner bonne conscience. Et ils font ça à contre-cœur. Rien n'est fait par plaisir. Et c'est vrai, c'est la caractéristique du paresseux. Le paresseux est tenu malgré tout de se lever, d'aller au travail, d'aller à l'école, d'aller à la mosquée, de faire le pèlerinage, de jeûner. Beaucoup de choses lui sont imposées, mais il n'est fait ou avant cœur et voûte. Non pas avec amour, mais avec dédain. Ils détestent ce qu'ils font. Ils le font par obligation. Donc Dieu condamne la paresse de manière catégorique. Le croyant doit être courageux, quelles que soient les circonstances et les conditions. Souvenez-vous toujours de l'exemple de Mariam, alayha salam, qui accouche. Elle est en état de faiblesse, aussi bien physique que psychologique, parce qu'elle doit affronter son peuple qui l'accuse d'être une femme de mauvaise mœurs. Et elle a faim, elle a soif, et Dieu lui dit: secoue le panier et va puiser de l'eau, va prendre de l'eau du ruisseau qui se trouve en bas. Et le courage, hein, bien qu'elle vienne de faire preuve d'un courage extraordinaire, c'est accoucher, hein, mettre au monde un enfant, et malgré cela, elle doit continuer à faire preuve de courage pour pouvoir boire et manger et affronter son peuple. Donc vous voyez que ce que Dieu nous demande, c'est quelles que soient les circonstances, on doit quand même se mettre debout et tenir et se battre. Voilà qu'on a la fi kabadim. C'est une réalité coranique et puis physique. L'être humain, Dieu l'a créé, et il lui est imposé de suer. Il doit suer. Hein? Il doit faire des efforts, aussi bien physiques qu'intellectuels que spirituels. Il doit donner pour pouvoir recevoir sur terre et dans l'au-delà. Il n'y a rien de gratuit. Kulu washrabu bima kuntum ta'malun. Buvez au paradis, mangez, jouissez en récompense de ce que vous faisiez, c'est-à-dire vous avez fait des efforts, voilà la récompense. Certes, l'entrée au paradis, c'est par la miséricorde de Dieu, mais la distribution des cadeaux paradisiaques se fera en fonction des efforts. C'est juste. Si on entre tous au paradis par la miséricorde de Dieu et on a la même récompense à l'intérieur, autant ne rien faire et attendre la miséricorde de Dieu. Non. Il y a 8 portes au paradis, et chacun aura ce qu'il méritera, et ce que vous mériterez dépendra de quoi? Des sacrifices, des efforts et de votre courage. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle du destin à ses compagnons en leur disant que tout est prédestiné, tout est écrit, certains ont mal compris la notion du destin. Et ils ont dit, ben, puisque tout est écrit, on va rester les bras croisés. Nattakil. Allez, on place confiance en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne fait plus rien, et c'est Dieu qui fait à notre place. Puisque tout est écrit, tout nous est imposé. Donc, on reste les bras croisés, et on attend que le destin fasse effet dans tous les domaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: non, vous n'avez rien compris, c'est pas ça le destin, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le destin. Le destin, vous le comprenez de la manière suivante. si un bien doit vous arriver, il arrivera. N'en déplaise au monde entier. Si un mal doit vous frapper, il vous frappera, quelles que soient les précautions que vous prendrez. Prenez des précautions, et si ça arrive, sachez gérer le malheur. Cependant, mettez-vous debout, bossez, travaillez, évitez les malheurs, faites tout pour acquérir le maximum de biens. Le fait d'agir de cette manière, ça fait partie de quoi? De la volonté de Dieu, ça fait partie aussi du destin. Ainsi, Omar ibn Khattab va condamner ceux qui, après la prière, squattent la mosquée, en particulier celle de Jumu'ah, en leur disant, mettez-vous debout, allez courir après les bienfaits de Dieu, bossez, travaillez, la prière est terminée, vaquez à vos occupations, car il ne tombe pas du ciel, donc Dieu ne va pas vous envoyer directement du ciel des euros. Les euros, pour les gagner, il faut s'investir. Et c'est la philosophie du Coran, puisque Dieu dit « Fa'ida qudiyatis salatu fantashiru fil ard » Une fois la prière terminée, dispersez-vous sur la terre. Toi, tu vas au lycée, l'autre au collège, l'autre au boulot, l'autre à la NPE pour chercher une place. « Fantashiru fil ard » Pourquoi faire ?« Wabtaghu min fadlillah » Recherchez Fadlullah, c'est-à-dire la nourriture, les biens de Dieu. C'est important. Parce que certains tombent dans ce qu'on appelle le tawakkul, la fausse confiance. C'est-à-dire, ils disent, on n'a pas besoin de bouger, tout est prédestiné. Et ça, c'est le danger des dangers. Et d'ailleurs, c'est cette manière de voir et de penser qui a fait que le monde musulman s'est retrouvé à un moment donné colonisé et dépecé de son âme. Lorsque les colons débarquent dans les pays musulmans, malheureusement, certaines confréries soufis dans certaines contrées de l'Empire musulman, pas toutes, hein, parce que beaucoup de confréries soufis ont pris les armes, mais certaines, surtout après des défaites militaires, ils ont fini par quoi? Par devenir déterministes. C'est-à-dire, ils se sont dit, ça ne sert à rien de combattre, de réagir contre le colonialisme, l'ennemi, c'est le destin de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et nous devons accepter le destin de Dieu. Et nous devons rester des brebis qu'on emmène à l'abattoir et nous faire égorger car c'est Dieu qui le veut. Et ils sont devenus des fainéants, et ils enseignent à leurs élèves le fainéantisme, qui se résume de la manière suivante. Un, ils ne cherchaient pas à travailler, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre mère, Dieu vous a déjà prescrit ce que vous deviez manger et boire. Donc ne cherchez pas à travailler, ça va vous tomber du ciel. Deux, puisque la nourriture ne tombe pas du ciel, qu'est-ce que vous faites? Vous frottez la manche. Vous demandez, vous allez vers ceux qui travaillent, les riches, et puis vous les amadouez, vous essayez de gagner leur estime en montrant votre piété. La tenue vestimentaire, portez des habits de moine, vous comprenez, et vous montrez aux gens que vous êtes désintéressé de ce bas monde. Après, vous ne travaillez pas, vous ne courez pas après la dunya. Et puis, vous adaptez les réponses à leurs questions et à leur situation. Vous dites ce qui leur plaît et vous leur faites croire que vous avez des pouvoirs, une relation particulière avec Dieu, et que s'ils vous donnent, vous allez les pistonner. Et c'est devenu comme ça. Le monde musulman vivait de cette manière. Une catégorie d'individus qui sont des soi-disant religieux, des moines, hein, on les appelle les nobles, hein, Shorfa, on les appelle Soufia, les Soufis on les appelle Al-Qaoum, Al-Fuqara, voilà, à un moment donné on les appelle Al-Fuqara, les pauvres. Mais en fait, ils n'avaient rien de pauvre puisqu'ils recevaient hein, les dons, les zakats et ils les consommaient et ils. C'était des parasites, tout simplement, dans la communauté musulmane. Ils ne produisaient rien, même au niveau intellectuel, ils ne produisaient rien, mais ils consommaient et ils ont répandu des idées hyper dangereuses qui ont fait qu'effectivement le monde musulman s'est arrêté de penser, de réfléchir et d'évoluer. Donc vous voyez que c'est très 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 dangereux de devenir fainéant au niveau intellectuel, au niveau matériel. C'est la religion qui disparaît à la fin et l'être humain. Donc Dieu condamne de manière claire et nette la fainéantise. Il nous demande le sacrifice et il nous demande de faire des efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même, explicite cette condamnation à travers ses dires et ses gestes. Ainsi, Zayd ibn Arqam dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Dieu en ces termes: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Au Seigneur, préserve-moi de l'incapacité, de la fainéantise, du laisser aller, ou elle j'oublie ou elle mourra. Protège-moi de l'avarice, protège-moi aussi de la lâcheté, ou al harami, ou adam il qabr, et d'une mauvaise vieillesse, et des tourments de la tombe. Allahumma aati nafsi taqwaha, wa zakkiha, anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Seigneur, purifie mon âme, tu es le purificateur des âmes, le meilleur des purificateurs, elle est entre tes mains. Ô Seigneur, guéris-moi des maladies de l'âme qui sont entre la l'avarice, qui sont la fainéantise et les autres. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa. Seigneur, préserve-moi d'une science qui n'est pas utile, une science qui ne pousse pas à l'action, une science vide de toute sincérité. Et c'est vrai qu'on peut être savant et fainéant. Les vrais savants, ce sont al-ulama'u al-amiloun. Vous entendez? Les savants qui sont actifs, qui agissent, qui bougent. Et on a deux types de savants dans notre communauté musulmane. Des savants qui ont des chairs dans des mosquées ou des universités et qui croient et qui pensent que leur devoir est de parler, d'éclairer les esprits. Et une fois qu'ils ont fini de parler, ils s'arrêtent là. Ils ne montrent pas l'exemple, ils ne vivent pas avec les gens dans la société, ils ne sont pas présents dans les moments forts. Bref, ce ne sont pas des porte-étendards. Ils sont dans les coulisses, loin de la réalité. Et à l'inverse, vous avez des savants qui sont présents 24 heures sur 24 et qui essaient non pas seulement d'éclairer les esprits des gens, mais de résoudre les problèmes et vivre les difficultés, les malheurs que subissent la communauté. Ce sont des globetrotters, ce sont des laboureurs qui donnent des idées, mais qui les mettent en pratique, qui réalisent des projets, qui font tout pour que la machine tourne et avance. Et ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Et pour vous donner un exemple, Hassan el-Benna, rahimahullah, a souffert de cet état de fait en Égypte. Énormément de savants sortent de l'Azhar, mais ils sont coupés du monde, ils sont fermés dans leur microcosme spirituel, intellectuel, islamique, la mosquée avec un petit groupe de personnes, et la société n'a rien à voir avec l'islam. L'Égypte est colonisée, le monde musulman est colonisé, c'est l'injustice partout, c'est l'ignorance partout, et Hassan Benna va vers eux, il leur rappelle leur devoir, qui est un devoir de islam. Hein, de corriger, de construire, de rénover l'édifice qui est en piteux état. Et qu'est-ce qu'il a comme réponse de la part de ces savants? C'est le destin. C'est le destin. Fatalisme, déterminisme, et tu veux-tu qu'on fasse ? La responsabilité incombe à ceux qui ont le pouvoir. Ce sont les moulins, les dirigeants, qui doivent faire tout ce que tu nous demandes de faire. Nous, on a fait ce qui était en nos pouvoirs, c'est-à-dire les rotables, contre le Jumu'ah et encore. C'était des proms du vendredi qui endormaient les gens au lieu de les réveiller. Qui n'incitaient pas les gens à l'action, mais plutôt à la fainéantise. Et quand Hassan el-Benna va s'y mettre, lui, il va parler, il va agir, et il va pousser les gens à agir, et il va entretenir cette action en étant derrière, et ça va créer toute une génération de gens moins savants, mais hyperactifs. Et ensuite une génération de savants doublement actifs. Et prenez l'exemple de Cheikh al-Qardawi, que Dieu le préserve et le protège, et le fasse vivre plusieurs siècles. Regardez, hein, un savant plus actif que ça, que lui, il n'y a pas sur Terre. Il est partout. Il est dans tous les domaines. Domaine économique, domaine politique, domaine intellectuel, domaine spirituel. Il s'en va, il ouvre une université islamique par là, il revient ici et il dirige le conseil de la FATO en Europe, il repart par là. C'est incroyable. Il est partout. Il fait le travail de 100 savants. À lui tout seul. Il est une école, il est une armée à lui tout seul. Rajul bi umma, un homme qui est équivalent à toute une communauté. Et on a des exemples comme ça dans les salafs salafs. Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, il écrivait, il répondait aux questionnaires, faisait contre moi le jumu'ah. Il était au jihad contre les Mongols. Il était dans les prisons pour éduquer les gens. Il s'occupait des veuves et des orphelins. Il était partout. Et il faisait tout. C'était un savant, non pas fainéant, mais hyperactif. Donc ce qui compte, c'est une science qui pousse l'individu à l'action. Une science qui handicape l'individu est une science qui n'est pas utile. C'est pour ça que le prophète A.S.A. disait « Wa min ilmin la yansa » Préserve-moi d'une science qui n'est pas utile. « Wa min qalbin la yakhsha » Et un cœur qui ne frémit pas. « Wa nafsin la tashba » Et puis, préserve-moi, ya Allah, de quoi ? De cette tendance que nous avons à ne jamais être rassasiés. Et on verra que ce qui pousse les gens à la fainéantise, c'est justement le fait de consommer outre mesure. Même une darwatine n'a eu stajab alaha et des invocations qui ne sont pas entendues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira que le diable, maudit soit-il, nous ficelle, enfin, il nous met des menottes la nuit quand on dort. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Dormez bien, hein, dormez sur vos deux oreilles, profondément, ne vous réveillez surtout pas le fajr. » Si le matin vous avez réussi à ouvrir les yeux grâce au réveil, ou à quelqu'un qui vous aide à vous réveiller, voilà un nœud en moi, mais il en reste encore deux. Et le diable, vous savez, si vous imaginez le petit diable qui est là, avec vous dans votre lit, et qui essaie d'empêcher le deuxième nœud de se défaire. Il appelle même des renforts. Au secours, venez m'aider, il est en train de bouger, il va se mettre debout, attention, tiens-le par là, mets-lui un coup par-ci. Vraiment quelque chose de terrible. Et c'est vrai que c'est lourd, hein, vous ne trouvez pas ? C'est pas un chétan qu'on a sur nous le matin, mais c'est une tribu de diables. On a du mal à décoller du lit. Et subhanallah, quand on travaille, on y arrive. Si tu as un boulot, tu commences à 5h du matin, tu arrives à te réveiller. Tu as un examen, tu ne dors même pas. Tu te réveilles. Tu as un rendez-vous, tu as un voyage, mais la prière, c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile, c'est lourd à gérer. Pourquoi ? Parce que les chayatines sont là, ils sont présents. Ils veulent que nous restions justement le plus longtemps au lit pour rater la prière. Et si tu arrives à sortir de ton pieu, il y a un nœud en moins, et si tu arrives à faire ta prière,
tu deviens quoi? Tu deviens léger. Hein? Et si tu ne fais pas ta prière, le hadith dit bien, wa illa asbaha khabitha nafsi kaslan. S'il ne réussit pas à se débarrasser des diables tôt le matin en faisant sa prière, donc ça demande du courage, il fera sa prière en dehors de l'heure et il sera comment? Il sera khabith nafs, de mauvaise humeur, et kaslan, fainéant, paresseux. Le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Le hadith dit, la baraka, elle est tôt le matin. Si vous la voulez, vous n'avez pas intérêt d'être fainéant. Donc le prophète, alayhi salam, nous dit ici que la fainéantise est le résultat de quoi? De la victoire du diable sur notre volonté. Et c'est vrai, c'est quoi la fainéantise? C'est le manque de volonté. Hein, le manque d'ambition. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de but. Tu dors et tu manges, tu te réveilles parce que ce sont des réflexes et des nécessités biologiques. L'intelligent, c'est celui qui se remet en question, se fixe des objectifs et se donne les moyens. Et le premier moyen nécessaire pour justement réaliser ces objectifs, c'est la volonté et le courage. Si on n'a pas de volonté et de courage, on ne fera rien, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans la religion. Celui qui veut le paradis, il retrousse ses manches, vous comprenez? Jamais. Tôt. Parce que rien n'est gratuit. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va condamner les paresseux dans sa communauté. Alors il les condamne à travers des discours dans lesquels il condamne la paresse et il met en valeur le courage et le sacrifice, mais il résout les problèmes au cas par cas. Ainsi, une fois, il a affaire à un homme qui vient le solliciter. Ô envoyé de Dieu, n'aurais-tu pas quelque chose à m'offrir? J'ai rien. Et il demande une sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étonné, lui dit: Ama fi baytika shay'un? N'as-tu rien chez toi? Tu ne possèdes rien? Chose qui est peu probable. Le compagnon dit: Non, prophète, j'ai chez moi un récipient et un tapis. Voilà, un tissu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Va, ramène-moi ce que tu possèdes. Il s'en va chez lui, il ramène ce qu'il possède, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en vente ses objets en disant: qui veut bien m'acheter ceci? Quelqu'un propose un dirham, le prophète dit: qui propose mieux? À la fin, le prophète alayhi wa sallam vend les objets, il récupère 2 dirhams, il les donne à la personne et lui dit: va acheter une hache. Il ramène la hache sans le manche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même confectionne un manche. Hein, il l'aide, hein, il participe, il lui donne l'exemple, il le soutient. Il confectionne un manche, il le met dans la hache et lui dit: tu prends cette hache maintenant et tu vas dans la forêt. Et tu reviens avec du bois que tu vends. Et on se revoit dans quelques jours. Quelques jours plus tard, l'homme revient avec 10 dirhams. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam saute sur l'occasion pour dire: voilà, il vaut mieux pour toi de faire ce travail qui était un travail ingrat à l'époque. Non pas seulement ingrat, mais un travail qui était réservé au limon de la société. Vous savez, les petites gens. C'est pas un travail que faisaient les bourgeois, les petits bourgeois. C'était réservé aux tiers d'État. C'était honteux. Donc va, il vaut mieux pour toi. Donc, accomplir cette tâche et gagner de l'argent que de demander. Car celui qui demande, celui qui tend la main, alors qu'il a
les moyens de subvenir à ses besoins, le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il aura ? Il sera ressuscité et une marque, il aura une marque au visage. Il aura une marque au visage qui montrera sa fainéantise. On le distinguera des autres. Le voilà celui-là. Il faisait la manche alors que Dieu lui a donné la santé. Il faisait la manche alors qu'il y avait du boulot, mais il n'en voulait pas pour des raisons uniquement de fainéantise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit : il n'est pas permis aux êtres humains de tendre la main sauf dans trois cas. Celui qui est vraiment pauvre, qui n'a rien du tout, c'est-à-dire même pas un récipient ni un morceau de tissu. Secondo, et qui n'a pas le physique pour travailler. Deuxièmement, celui qui est endetté jusqu'au bout. Il a des dettes, il ne peut pas s'en sortir même s'il travaille toute sa vie. Et troisièmement, celui qui a commis un crime et qui doit verser la compensation financière, le prix du sang. Et c'est tellement important qu'il a besoin d'être aidé. Donc ce hadith est là pour nous dire que on ne doit pas être fainéant. Nous devons agir, travailler, nous investir et partir de rien. Ce qui compte, c'est la volonté. Ce compagnon qui est allé demander, c'est parce qu'il n'avait pas de projet, il n'avait pas d'ambition, ou il n'a pas réfléchi assez pour trouver une solution à son problème. Il a choisi la solution la plus facile, qui est de demander aux gens. Et c'est ça, plus ou moins, la nature de l'être humain. On cherche la facilité. On recherche quoi ? On recherche ce que les autres ont. On ne se pose pas la question suivante : comment ont-ils fait pour avoir ce qu'ils ont ? En fait, on connaît la réponse, mais elle nous déplaît. S'ils ont ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont fait des efforts, et ce sont ces efforts qui nous dérangent. Et celui qui sème, celui qui plante, récolte. C'est la volonté de Dieu. Aïcha, radiallahu anha, fera une remarque à propos des compagnons du prophète, radiallahu anhu, elle dira qu'ils étaient sales et qu'ils sentaient, ils avaient des mauvaises odeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillaient. Ils étaient au champ, ils étaient dans leur fabrique, et ils venaient à la prière avec leur bleu de travail, poussiéreux, n'ont pas eu le temps de prendre une douche, et elle a fait cette remarque, et c'est pas une critique négative, mais c'est plutôt une critique positive. Elle a l'air de dire, regardez, bande de musulmans fainéants, qui, sous prétexte d'être des religieux et des pratiquants, vous êtes devenus des fainéants. Ce sont les sahabas qui ont mieux compris la religion. Lorsqu'on reprochera à Omar ibn al-Khattab de ne pas connaître le hadith qui nous enseigne comment frapper à la porte, vous frappez une fois, vous attendez une seconde et une troisième, et si on ne vous ouvre pas, vous retournez sans rancune. Omar ne connaissait pas ce hadith. Et lorsque il l'apprendra, on lui dira, ya Omar, toi tu ignores ce hadith, qu'est-ce qu'il dira ? Il dira, mon ignorance de ce hadith et d'autres hadiths est due au fait qu'on passait notre temps au marché pour commercer. Au lieu de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allions au marché pour commercer. Et pourtant, on pourrait dire, subhanallah, le prophète était présent, et au lieu de rester 24 heures sur 24 aux côtés du prophète à la mosquée pour s'imprégner de son savoir et de sa spiritualité, les compagnons ont délaissé le prophète et allaient au souk. C'est certain, plus royaliste que le roi aujourd'hui, vous direz, c'est de la dunya, ils étaient matérialistes. Ou il vous dirait que, moi si j'étais à leur place, je n'aurais pas fait ça.
Et non, et ils sont les mieux placés pour pratiquer la religion, car le prophète était là pour les corriger. Et ils ont mieux compris la religion que nous. C'était des bosseurs. Et Omar va se mettre d'accord avec son voisin pour que, une journée, Omar aille au champ. Il travaille sa parcelle de terre et celle de son voisin, alors que son voisin, lui, va à la mosquée pour étudier. Et le soir, il lui fait un résumé. Et le lendemain, c'est au tour de Omar d'aller à la mosquée et de Haus d'aller au travail. Ils ont trouvé une solution au problème de l'acquisition du savoir islamique et la gestion de leur quotidien. Donc, c'était des bosseurs, des travailleurs. Lorsque les Sahaba sont arrivés, les Mekwa sont arrivés à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Médinois d'accueillir chez eux les Mekwa et de partager avec eux. Et les Médinois ont tout de suite fait une proposition aux Mekwa. Ils leur ont dit, nous avons des terres agricoles, lors de la récolte, nous allons vous faire don de la moitié de nos biens, de notre récolte. Parce que nous sommes prêts, nous devons partager. Est-ce que les Mekwa ont dit, super, on n'a plus rien à faire, on va squatter la mosquée, on va dormir, et au terminus, qu'est-ce qu'on a? Nous avons de quoi vivre, nous avons la moitié de la récolte. Ce ne sont pas des profiteurs ni des fainéants. Ils ont remercié leurs frères Ansar en leur disant « Barakallah, on fait compte pour votre générosité. Vous êtes trop bons, trop généreux. Et on n'abusera pas de votre gentillesse. On vous propose une autre solution. Vous savez laquelle ? Vos terres vous appartiennent. La récolte, c'est la vôtre. Nous allons servir de main-d'œuvre. On va bosser, on va travailler et on partage la récolte. Et vous nous offrez la terre, les moyens. Nous, on ouvre notre force, on offre notre force, on s'investit physiquement et au terminal, on partage. Alors, c'était des fainéants. Se sont-ils satisfaits de la proposition des Ansar qui, quelque part, pour son ego, elle est magnifique, hein. Franchement, tu ne fais rien, tu pries toute la journée et même la nuit au passage, tu étudies l'islam, tu es aux côtés du prophète, et puis, tu as quand même ton compte en banque qui est... Non, ce n'était pas du tout la philosophie des Sahaba. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne la fainéantise et il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois sortes de mains, il y a trois types de personnes. Vous avez la main de Dieu et c'est elle la plus haute, le plus généreux des généraux, c'est Dieu. Vous avez ensuite, juste en dessous de la main de Dieu, celle de celui qui donne parmi les êtres humains. Hein? Parmi les êtres humains, celui qui donne sa main est haute. Et il y a un troisième type d'individu, une troisième sorte de main, c'est celle qui reçoit. Et celle la plus basse. Donc choisissez votre camp. Soit vous voulez être en bas et recevoir, ou soit vous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu est généreux et la main de Dieu est la plus haute, donc vous essayez de monter, de vous rapprocher de la main de Dieu en donnant. Et ce que condamne ce hadith ici, c'est quoi? C'est justement la bassesse de certains êtres humains qui ne veulent faire aucun effort et qui sont les premiers, pourquoi? Pour demander, pour profiter. Pourquoi? Parce que c'est de la fainéantise, tout simplement. Hein? De la fainéantise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il vaut mieux pour l'un d'entre vous d'aller récolter du bois dans la forêt, le porter sur son dos et le vendre, gagner de l'argent, que de demander aux gens qu'ils soit lui donnent ou refusent de lui donner. Et c'est avilissant, c'est pour un être humain, que de tendre la main et ensuite de ne rien recevoir. Musulman et courageux, c'est un beau sens. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'être courageux et qu'est-ce qui nous pousse à être feignants? Je dis, c'est inscrit dans la nature, dans les gènes. Il faut les combattre. D'accord? Deux, l'éducation. Ça joue beaucoup. C'est tout simple. Regardez l'éducation que nous avons reçue, nous, jeunes musulmans de France. Beaucoup de parents font la distinction entre les garçons et les filles. Et les filles ont été tenues dans nos familles à bosser et à travailler. Les garçons sont servis comme des rois. Ils ne font rien à la maison, voire presque rien. Majorité des exceptions. Et les filles sont toujours au garde à vous. Résultat, c'est que nous avons été habitués à être servis, à recevoir. Bref, on a pris goût à la fainéantise. Et ça donne des résultats très négatifs par la suite, puisque à l'école, on réussit moins que les filles, parce que justement on a du mal à bosser, à travailler. On travaille une demi-heure après qu'on est fatigué, on arrête. On fait une pause de 4 heures. Hein? C'est comme ça, hein? Je veux dire, on n'arrive pas à. On ne saute pas des couvertes de fond. Si on fait un 100 mètres et on arrête pendant 10 km. Et là, on reprend ensuite. Parce que nous ne sommes pas habitués à bosser. La jeune fille, la femme, non. Elle se réveille tôt le matin déjà. Petit déjeuner, il doit être prêt. Hein. Et elle bosse, petit déjeuner terminé, elle prépare le déjeuner. Déjeuner terminé, elle doit préparer le goûter. Les enfants vont rentrer. Le goûter terminé, elle doit préparer le repas. Le souper. Le souper terminé, elle doit se préparer à dormir et on ne laisse pas dormir. Vous rendez compte du courage des femmes et l'éducation que reçoivent les jeunes filles. Nous, garçons, on est inclus. D'ailleurs, c'est la faute des parents, en particulier de la mère. Hein? Laisse mon fils, laisse, c'est un garçon. Hein? C'est pas un travail de garçon, c'est un travail de femme. Hein? Ce sont les femmes qui font à manger, qui servent, qui rangent la table, qui nettoient par terre, qui font les lits, qui lavent les vêtements. Les hommes ne font rien, les hommes. Les hommes, c'est ils mangent, ils s'allongent, ils prennent du poids. Non mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Ça, vous pouvez pas savoir à quel point. Moi, ça m'énerve, cette mentalité m'énerve, parce que après ça se voit. Regardez dans les mosquées. Quand on fait un repas dans la mosquée, on est tous assis, on attend avec impatience, on mange et personne qui bouge pour ramasser. Et personne qui va se mettre debout pour servir. Toujours les mêmes. Et les mêmes sont généralement la première génération des parents. Il y a un boulot quelque part, il y a un travail. On est là, on regarde. Nous sommes des spectateurs. On ne s'investit pas. On n'a pas été habitué à travailler. Une fois, on avait fait une soirée dans une mosquée chelou dans le Nord. Et il y a un frère. Puisqu'il était dans la cuisine, il était dans la mosquée pour ramasser, pour servir. Il était partout. À 2h du matin, à 2h30. Et il était encore en train de nettoyer et de bosser. Et je lui disais, arrête, Yacri, arrête, c'est bon. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, non, j'ai pas été élevé à regarder les autres travailler. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, depuis que je suis petit, ma mère m'a fait travailler à la maison. Non, il n'y avait pas de sœur, hein. D'accord? Donc, depuis que je suis petit, ma mère m'a fait travailler. Et c'est dans mon sens. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je lui ai dit, même chez toi, il m'a dit, oui, même chez moi, demande à ma femme. Je ne peux pas
rester assis, regarder ma femme travailler. Je suis obligé de me mettre debout et de travailler. Ils ne supportent pas le fait justement de rester les bras croisés. Il faut qu'ils s'investissent. Et on a un exemple dans la vie du prophète, alayhi salam. Le prophète va aller sa maison. Pourquoi? Parce que sa femme, elle a besoin d'aide. Il coud ses vêtements. Il tresse sa chèvre. Il arrange ses sandales. Il est en voyage avec ses compagnons, il s'arrête. Certains disent, moi je fais ça, il se partage les tâches. À la fin, le prophète, il saute sur l'occasion, il prend sa tâche, il dit, ben moi je vais ramasser le bois pour allumer le feu, pour préparer à manger. C'est pas, il s'est arrêté, il s'est allongé, il a regardé les compagnons travailler. Il y en a, il a dit, moi je vais gorger la bête, moi je vais la dépecer, moi je vais faire cuire. Le prophète a dit, moi je ramasse le bois. Une autre fois, ils construisent la mosquée. Et le prophète prend les briques, il les ramène. On lui dit, prophète, t'es âgé, laisse, on va le faire, t'as assez bossé. Il a dit, non, vous cherchez la récompense, mais moi aussi je la cherche. Et là, on croit que le travail, c'est un malheur, c'est une calamité. Vous êtes bien d'accord, le travail, c'est une galère. C'est pour ça qu'on le considère. En fait, si on était un peu plus spirituel, on comprendrait que chaque geste que tu fais, un effort que tu fais, t'es récompensé. Tu te mets debout, tu fais la vaisselle, tu dois la faire avec le sourire. C'est une prière que tu es en train de faire, tu es en train d'adorer Dieu. Tu vas au travail, tu dois y aller avec le sourire, tu es en train d'adorer Dieu. C'est parce que la spiritualité, elle est limitée à la prière. Et on croit que c'est la prière le seul moyen d'adorer Dieu, le ramadan. C'est faux. Le travail, c'est le plus tous le hadith. Les compagnons qui font une remarque à l'encontre d'un autre compagnon qui court dans tous les sens, qui bosse. Et ils disent, oh, si seulement il faisait autant d'efforts pour la religion. Puis ça dit, le prophète, alayhi salam, va corriger les compagnons en leur disant, s'il s'investit pour nourrir sa famille, ses fils abélidins. S'il s'investit pour entretenir ses parents, ses fils abélidins. S'il s'investit pour lui-même, pour se préserver justement du péché et de la manche, ses fils abélidins. Par contre, s'il s'investit pour Shaitan, ses fils abélidins. L'air de dire, il n'est pas en train de perdre son temps, il est en train d'adorer Dieu. Et nous, le travail, c'est un malheur, c'est une punition. N'est-ce pas, hein? Parce que tes parents te disent, va bêcher le jardin si t'as un jardin, c'est une punition. Parce qu'ils te disent, je sais pas, balayer la maison, c'est une punition. Pourquoi? Parce que on croit que il n'y a que la prière, les actes rituels qui sont une adoration. C'est faux. Il faut faire ce que l'on fait avec une arrière-pensée spirituelle, avec une intention, en se disant que je ne perds pas mon temps, je suis en train d'adorer Dieu, et vous allez voir qu'on va trouver du courage à travailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, celui qui s'endort la nuit, fatigué de sa journée de travail, bata maghfuran lahu, il dort sans péché. Tu te rends compte? Tu rentres chez toi, tu es crevé, tu t'endors, tu dors, et tes péchés sont effacés à cause de la fatigue due à ton investissement, à ton travail. Dans un autre hadith qui est daïf, qui est faible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a des péchés qui ne peuvent être effacés que par le biais du travail. Il y a des péchés, tu veux t'en débarrasser, il faut bosser, il faut te fatiguer, il faut être fatigué, pour que Dieu les aide. Il suffit d'avoir ça à la tête, au moins vous allez travailler avec le sourire, avec plaisir. Et quand vous êtes fatigué, vous allez apprécier la fatigue. Vous allez vous reposer, certes, et demain vous allez vous remettre debout, et la machine est repartie, inch'Allah, pour un peu plus d'efforts. Donc, vos études, vous devez les faire avec le sourire, et non pas avec fainéantise. Hein? Vous devez bosser avec plaisir, vous devez travailler avec plaisir, pas avec paresse. Ouais. Le travail quotidien, Demain, quand vous aurez une fonction, quand vous aurez un métier, tout cela, vous devez le faire avec courage. Omar ibn Khattab a dit, Dieu déteste, ou il a dit, je déteste, je n'aime pas le sabahoul, le fainéant, qui n'est ni investi dans les choses de ce bas monde, ni investi dans la religion. Il perd son temps. Qu'est-ce qui fait que nous sommes encore fainéants? Il y a l'éducation, et il y a aussi la société moderne aujourd'hui. C'est vrai que la vie nous est facilitée, mais ça a un côté pervers, justement, la fainéance. Regardez, on est incapable de faire 500 mètres à pied. T'as ta voiture, tu vas prendre ta voiture pour aller juste là-bas, c'est pas loin, même pas. Et regardez l'exemple que ça a. Le vendredi, je vois à les mosquées. On veut tous stationner à 2 cm de la porte de la mosquée. Si on pouvait mettre la mosquée dans le couloir, la voiture dans le couloir de la mosquée, on le ferait. Il y a de la place là-bas. Oh non, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est vrai que parfois on est pressé, on veut se rapprocher. Mais parfois, on a le temps, mais on ne veut pas marcher. C'est rentré dans notre système. On stationne en double fil, on stationne devant les portes de garage. Et combien de gens non-musulmans sont venus frapper à la porte de la mosquée pour dire « Je m'en vais au boulot, il y a une voiture stationnée en double fil, je ne peux plus y aller. » Moi, ça m'est arrivé d'entrer dans la mosquée et d'arrêter l'imam en pleine rentrée en lui disant « Stop, yachir. » Ma voiture XY 2005 truc machin, elle gêne quelqu'un qui veut aller au travail. Pourquoi? Parce que il y a une place à 400 mètres, mais on ne va pas la poser là-bas. C'est trop dangereux pour nous, puisque c'est trop dangereux pour notre repos. Non, il faut être courageux. Il ne faut pas hésiter à... La société, elle nous entretient. Comprenez? Dans quoi? Dans... On devient fainéant, quelque part. La télévision, shaitan, en personne. C'est une limite de fainéantise. T'es allongé, tu ne bouges pas, t'es au chaud. Tu ne te déplaces même plus pour changer les chaînes. T'as la télécommande à distance. Et qui sait, demain ils vont nous sortir des télés sans télécommande. Tu cliques, t'as la première, tu cliques deux fois, t'as la deuxième. Non, c'est un effort qui existe. Ils vont peut-être nous sortir une télévision, c'est deuxième, troisième. Non, pardon, c'est encore un effort que de dire deuxième, troisième. Peut-être une télévision, tu mets une électrode dans ton cerveau, et puis rien qu'en pensant, la télévision... Non mais, bon, c'est pas mauvais en soi, hein, vous comprenez? Mais si ça ne créait pas en nous, justement, ce défaut, ça irait. Mais non, aujourd'hui, c'est vraiment difficile de faire bouger quelqu'un sur ce moment-là. On le voit dans les mosquées, quand il y a des travaux à la mosquée, personne. Et quand on travaille une heure, deux heures, on arrête, on est fatigué. Qu'est-ce qui fait encore que, justement, nous sommes fainéants? C'est l'assistanat. Que ce soit au niveau des parents ou bien au niveau de la société. Nos parents ne nous laissent pas travailler, faire, quand on le veut, quand il est nécessaire, parce que ça fait partie de l'éducation, d'inciter les enfants et de les faire participer à une entreprise, à un travail, Shaitan il vient, il dit aux parents, non, ils sont trop jeunes, ils sont trop petits, non, ils sont fatigués, ils viennent de rentrer de l'école, non, ils ont des devoirs. Et conclusion, fais rien mon petit, je suis là pour toi, et les parents courent à droite et à gauche, 24 heures sur 24 pour leur enfant, et finalement, c'est ce qu'ils font, ils sont en train de détruire leur enfant. Pourquoi? Parce que ils n'apprennent pas à leur enfant à devenir indépendant, responsable. Mais ils en font des assistés. Tu t'imagines le gosse? Même ses chaussettes, sa mère doit lui mettre. Allez, il est à table, il ne se sert même pas, il faut le servir. Même son lit, il ne le fait pas. Laisse-moi, je vais le faire. Sous prétexte que tu es jeune, ou sous prétexte que tu ne sais pas le faire, ou sous prétexte que mille et une choses. ça va pas, non. Vous faites pas du bien à vos enfants. Faites-les bosser, faites-les travailler pour qu'ils deviennent courageux, responsables. Sinon, vous en faites des fainéants, des consommateurs qui vont vous retourner le cerveau quand ils seront un peu plus grands. D'accord ? Qu'est-ce qui fait encore qu'on est fainéant ? C'est... j'avais dit les parents, c'est ça ? Ils sont à l'origine. Mais aussi la société. Hein ? Elle nous assiste. Hein, l'assistanat de la société. Les aides, hein, les secours, les assistantes sociales qui sont là pour te dire bah tiens, t'as droit ceci, t'as droit cela, t'as droit cela. Et ça sous-entend, faut pas être mathématicien, qu'avec tout ça, bah, en fait t'as pas besoin de travailler parce que si tu travailles, tu gagnes juste un petit peu plus. Conclusion, allez vas-y, tu te la coules douce et tu consommes. Un petit piège, hein, un petit piège là, dans lequel beaucoup sont tombés. Les étudiants, etc. Surtout les étudiants. Hein. On est étudiant, on a besoin d'argent, on est bourse ou moitié de bourse. On vient sortir les emplois jeunes. C'est ça ? Un emploi, ça doit être un emploi. Ouais. Dans 5 ans, vous serez. Ouais. Et on y est allé. On a fini par délaisser nos études. Ouais. Une année, tu l'as fait en 3 ans. C'est ça ? Tu gagnes de l'argent, sont généralement des travaux, hein, des emplois qui ne sont pas très difficiles. Hein. Comprenez, c'est pas un gros emploi en fait, sans responsabilité. Conclusion, on se la coule douce, on devient des consommateurs et des fainéants, et résultat, regardez maintenant. Voilà. Ni emploi fixe, et valorisant un emploi qui te permet de monter, d'aller vite avec un salaire qui correspond au moins à tes heures de travail, ni études. On est parti vers la facilité. Je connais des dizaines de frères à qui c'est arrivé. Et je me souviens, son formant au début, je leur disais, attention, c'est un piège. Allah est bien fait comme souffrez, galérez, vos études sont une priorité. Patientez 2, 3, 4 ans, et vous avez gagné 10 fois plus d'argent en 2 ans que ce que vous avez gagné en 4 ans avec ces emplois, ces demi-emplois, ces quarts d'emploi. Non. Alors, on a tout de suite envie de réussir et de posséder. Et résultat, beaucoup, les pauvres, sont dehors maintenant ou sont sans avenir professionnel stable et fixe. Faites attention, notre société, avec l'assistanat, avec les facilités, ne nous fait pas toujours du bien. Bon, je ne suis pas un monstre non plus, hein. Je ne suis pas pour les travaux forcés, l'esclavage, loin de là, machin, ce n'est pas le but, mais la fainéantise est un vice, un défaut mortel pour l'individu, pour la famille, pour la société. Que Dieu nous préserve de la fainéantise et qu'il nous donne l'intelligence pour réfléchir convenablement, et qui nous donne aussi la volonté et la force d'avoir des projets et de les mettre, de les réaliser. Ça, c'est la fainéantise au niveau de la pratique religieuse, au niveau des choses de ce bas monde. Mais il y a la pire des fainéantises. Vous savez, c'est laquelle ? C'est la fainéantise intellectuelle. Car c'est d'elle que découlent les autres catégories de fainéantise. Et c'est vrai que nous sommes feignants, nous musulmans, au niveau intellectuel. Je ne parle pas de vous, hein, vous vous apprenez. Hein. Mais on est feignants, subhanallah. Allez, on y va. On n'aime pas lire, n'est-ce pas ? Lui, oh, j'aime pas la lecture. Je n'aime pas la lecture. Et ça, dès le plus jeune âge. Regardez les arnaques des collégiens et des lycéens. Hein, quand la prof nous donne un livre à lire, qu'est-ce qu'on fait ? On va à un copain pour qu'il nous donne un résumé, n'est-ce pas ? On achète des résumés déjà tout faits du bouquin, où on lit le début et la fin. Tout pour ne pas lire. Comme si lire c'était un malheur. Alors que la lecture, c'est quoi ? C'est la clé du savoir et de la science. On n'aime pas lire. Et fais un petit sondage, une petite étude, hein, et tu verras que les musulmans sont ceux qui lisent le moins. Lire tout, hein, je ne parle pas seulement du Coran, mais le reste. Deux, on se contente de quoi? De ce que l'on entend ou ce que l'on croit entendre à l'école. Une fois l'école terminée, moins on apprend, moins on réfléchit, mieux on sent. La preuve, quand les vacances arrivent, adieu le cartable, le stylo, le papier, le livre. Deux mois, sans lire, sans étudier, sans apprendre, sans réfléchir, sans se corriger. Si les vacances étaient de 6 mois, on a 6 mois. Si bien que ça roule, il n'y a plus rien à l'intérieur qui fonctionne. Tout est mort. Mais le pire, si une fois que tu as arrêté l'école, tu es parti pour 40 ans, 50 ans, sans réfléchir. Tu recommenceras à réfléchir quand tu seras devant Dieu. Ah oui, alors tu as raison, c'est vrai, t'as raison de réfléchir 2 secondes. C'est vrai, j'ai fait ça. C'est trop tard, c'est risqué. Et c'est vrai, nous sommes comme ça. On dirait que l'effort intellectuel est lié à la scolarité. Mon Seba, Allah l'Azim, c'est un malheur. Sinon, l'effort intellectuel est lié à quoi? À la nature propre de l'homme. À ta nature de musulman, tu dois toujours réfléchir, apprendre, étudier, cogiter, écouter. Toute ta vie jusqu'à ta mort. Mais non, subhanallah. Donc c'est la pire des fainéantises et c'est elle qui est à l'origine de notre bassesse. C'est celle qui est à l'origine de quoi? De l'état lamentable dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, courage. D'accord? Courage au niveau intellectuel, au niveau spirituel, rituel, pratique de la religion, et au niveau aussi matériel, inchallah, des beaux sœurs. Et la vérité, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de repos sur terre. Le repos, inchallah, c'est quand? C'est quand on aura mis un pied au paradis. Vous entendez? On a reproché à un saint. On lui a dit, tu te fatigues trop, tu bosses trop. Ta mère, mon loup, repose-toi un peu. Il a dit, c'est le repos que je recherche dans le travail. C'est beau quand même, hein? Allez, cet investissement que je fais, ce sacrifice que je suis en train de faire, c'est pour me reposer. Mais il ne faut pas se tromper, il n'y a pas de repos sur terre. Le repos, ce sera après, non? Sur terre, c'est soit tu t'investis et tu te fatigues dans le bien, ou soit tu seras investi, persévérant dans le mal. Vous avez pigé? Au choix. Bon. Avec quoi? Une bonne intention. Avec des ambitions, un programme, un but à atteindre, ou le shaitan, il va te faire travailler par rapport à ses buts, par rapport à ses objectifs. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. On s'arrête ici. Vous avez peut-être des remarques à faire, des critiques, des suggestions. À vous la parole. C'est froid, hein?
Bakalaw fek, pour cette conférence, c'est Hassan. Donc une conférence qui a été enregistrée en direct, vous l'avez pu entendre sur les bruits de fond qu'on entendait. Une qualité de son, ma foi, audible, qui reste audible. On s'excuse un petit peu pour la qualité, mais bon, c'est pris en direct. C'est ce qui fait aussi le vivant de la conférence. Heureux ceux et celles qui ont pu écouter avec patience et profit cette conférence d'une petite heure. On remercie Hassan pour toutes ces informations, cette exhortation à effacer de notre caractère et de notre âme les défauts tels que la fainéantise. Et ça fait du bien et chaud au cœur d'entendre ces exhortations et nous encourager effectivement à corriger nos défauts qui sont bien nombreux. Et heureux ceux et celles qui ont profité de ces conseils fondés et très concrets, hein, de la part de Cheikhouna Sir Hassan, Allah yhafdou, transmettez le message autour de nous, qu'on transmette ce message-là, ce dont on a appris ce soir. Et je vous propose pour les 5-10 dernières minutes de l'émission, déjà de vous remercier pour votre fidélité et de votre patience, de vous donner rendez-vous, inch'Allah, la semaine prochaine à partir de matin, l'émission La Prophétie, normalement avec Sir Hassan, inch'Allah. Qu'Allah vous garde, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous pardonne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Et on terminera donc l'émission avec quelques chants religieux du monde. Là, j'ai quelques chants turcs et on mettra chants religieux maghrébins par la suite. Passer la relève éventuellement à l'émission Safina qui devrait suivre normalement à 22h. J'en suis pas trop sûr puisque JMF Tourcoing a organisé une conférence sur Tourcoing et il me semble qu'elle devait terminer avant 22h. Ils devraient prendre une mission. Bon, si toutefois une mission n'a pas lieu, c'est qu'effectivement ils sont toujours au niveau de la conférence. Bien, quant à nous, on se donne rendez-vous à partir de 20h, à partir de vendredi prochain. Passez un très bon week-end, une très bonne semaine, et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.